le magazine citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du magazine Citoyen. Jusqu'au 20 septembre, la Province Sud organise sa 32e édition du mois du patrimoine en Province Sud. Pendant plusieurs semaines, habitants, visiteurs sont invités à partir à la rencontre de l'histoire, peut-être avec un grand H calédonienne, au travers d'expositions, de spectacles ou encore de visites guidées. On en parle ce midi, je vous présente nos invités. Laure Moreau, bonjour.
Bonjour Lionel.
Vous êtes la présidente de la commission de la culture de la province Sud. Paul-Antoine Grandjean, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la direction de la culture, de la jeunesse et des sports de la province Sud. Et Yves Mermoud, bonjour.
Bonjour.
Que l'on connaît bien sur Radio Rythme Bleu, président de l'association Un témoignage d'un passé. 32e édition donc du mois du patrimoine. J'allais dire que c'est une édition qui reprend un format assez normal. Il y a eu 2024, donc forcément ça a été compliqué pendant ces deux années. Paul-Antoine Grandjean, c'est ça, on revient à un format normal, celui qu'on connaissait?
Tout à fait, on a voulu revenir à ce qui était et faire écho aussi à la journée du patrimoine en France hein, qui se déroule au mois de septembre. Et c'est vrai que là, on est vraiment sur un format très familial avec aussi beaucoup de passerelles donc, entre le patrimoine, la culture, le tourisme et la découverte des territoires. Et avec un accès aussi de véritables séjours, de véritables escapades avec les familles, puisqu'on n'est pas que sur une simple découverte, une simple visite en fait. On est vraiment sur un dîner, des contes qui sont racontés, une soirée passée. C'est un hébergement aussi, donc une nuitée et puis des activités sportives, culturelles, voilà.
Il y a tout un écosystème, j'allais dire, qui se met en place autour du patrimoine à proprement parler.
Tout à fait, et on sent vraiment une vraie envie, et depuis le 14, beaucoup de personnes, on a aujourd'hui plus de 600 personnes qui sont déjà venues découvrir un peu les différents événements qui ont eu lieu. Beaucoup de partenaires aujourd'hui, hein, c'est plus d'une vingtaine de partenaires. Hein. Ben, Yves, qui est ici présent, un partenaire historique et le gros partenaire, comme chaque année, du mois du patrimoine. Mais c'est vrai qu'on a là, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on touche plus de 80% des communes donc, de la province Sud. Donc c'est vraiment chouette et beaucoup d'associations, beaucoup de particuliers aussi qui sont investis. Donc une belle, en tout cas un beau début, une belle rentrée en matière et on en a encore pour plus de deux semaines.
Exactement. Laure Moreau, il est important de mettre en avant le patrimoine de la Nouvelle-Calédonie. Je disais que c'était l'histoire peut-être avec un grand H du territoire.
Tout à fait, Lionel. En effet, c'était la volonté hein, de Madame Baquès, la présidente de la province Sud, et j'en profite également pour remercier tous les agents de la direction de la culture, jeunesse et sport, les associations, les bénévoles, qui permettent justement une reprise normale de cet événement, qui connaît un franc succès depuis sa création. En 2024, il fut interrompu. En 2025, il a repris sous un format très restreint, puisqu'il était ouvert qu'aux scolaires. Et en 2026, il reprend toute sa place dans le programme donc des activités que nous proposons. Un vrai succès, pourquoi ? Parce que c'est gratuit, c'est sur toutes les communes, en effet, de la province Sud. Et puis, ben, c'est pour tout public. Donc, ça part de Thio à Yaté, avec des événements vraiment divers et variés. Et c'est à l'image même de ce qu'est notre patrimoine, j'ai envie de dire. Donc, avant 2024, il faut savoir que le mois du patrimoine avait quand même lieu sur toute la Calédonie. Et qu'aujourd'hui, il est malheureusement restreint qu'à la province Sud.
Laure Moreau, peut-être une question qui fâche, mais on sait que les budgets sont contraints dans les institutions. C'est compliqué d'arriver à conserver la mise en place de ce genre d'événement dans une période budgétaire qui est compliquée.
C'est compliqué, il faut faire des choix et je pense que la province Sud a fait un choix très clair aujourd'hui. L'objectif était de faire vivre notre histoire, de la faire découvrir, cette histoire commune. Il faut la valoriser, il faut la protéger. Il faut également sensibiliser tous les publics à la diversité de notre patrimoine. Il ne faut pas oublier que ça fait également, je pense, partie de la politique, de l'identité calédonienne qu'on va mener sur ce mandat. Et il faut savoir d'où on vient pour savoir où on veut aller avec notre population. C'est une richesse, cette diversité. Ce patrimoine constitue une richesse qui est vraiment à l'échelle égale, quelle que soit la tranche de population à laquelle on appartient en Calédonie. Wallonie. Le patrimoine a été amplement touché en 2024, je parle en connaissance de cause, puisque venant de la commune du Mont d'Or, on a malheureusement l'église de Sainte-Cécile qui a été incendiée. Ça faisait partie d'un patrimoine communal auquel tous les Mont-Doriens s'identifiaient. Et il est donc aujourd'hui primordial de faire que ce patrimoine continue de vivre, parce qu'en le faisant vivre, on va pouvoir le transmettre, on va pouvoir le partager et on va surtout pouvoir le faire évoluer.
Yves Mermoud, Paul-Antoine Grandjean le disait, vous êtes un des partenaires historiques de ce mois du patrimoine en province sud. Vous y êtes, j'allais dire, retourné cette année avec plaisir et malgré sans doute des difficultés comme plein d'autres.
Oui, comme beaucoup d'associations, hein, c'est surtout le manque de bénévoles. On fait toujours appel aux bénévoles parce que les nôtres vieillissent et c'est toujours le manque de moyens, mais surtout le manque de moyens humains qui pêche au niveau des associations. Donc, c'est l'occasion de toucher de nouveaux publics et donc à travers ces publics, il y a peut-être des gens qui vont être sensibles à cette fibre patrimoniale et puis qui vont peut-être nous rejoindre. Donc, non, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on relance la machine au niveau du mois de patrimoine et sur chacun de nos sites. Hein, le musée rural de Païta, la maison Cellière et puis bien sûr le site historique de l'Île-Noue.
Qu'est-ce qui plaît aux gens quand ils viennent voir, que ce soit sur le site de l'Île-Noue, à Païta, qu'est-ce qui plaît aux gens, qu'est-ce qui veulent découvrir finalement?
Je pense que c'est surtout des activités qui changent un petit peu de ce qui est offert habituellement comme offre culturelle, c'est-à-dire la visite classique ou les visites guidées. Là, on trouve des formats qui sont un petit peu plus dynamiques, un peu plus novateurs, un peu plus originaux. C'est ce que disait Paul-Antoine tout à l'heure. Il faut essayer de toucher de nouveaux publics et donc essayer de proposer des activités qui soient inédites. C'est ce qu'on a essayer de faire à Païta, c'est ce qu'on va faire ce week-end, enfin samedi, à l'Île-Noue. Donc c'est vraiment ce que cherchent les gens. Donc allier les passerelles dont parlait Paul-Antoine tout à l'heure, allier la culture et les loisirs par exemple, et pas rester vraiment fermé sur le créneau patrimoine, culture, l'aspect ringard, amuser, etc. Il faut trouver des formules qui attirent tout public, donc les familles, parents et enfants.
Il y a un côté un peu, vous venez d'employer le mot, un peu ringard au musée, des choses comme ça. Vous trouvez, vous qui êtes...
C'est ce que certaines personnes pensent. Donc nous, on fait tout, justement, pour essayer d'éviter cet écueil-là et essayer d'offrir des choses qui soient dynamiques, qui soient nouvelles, qui soient intéressantes pour les gens. Et donc aujourd'hui, dans tous les sites, c'est la priorité, la numérisation du patrimoine pour proposer des choses qui soient numériques, qui soient... avec des outils qui soient modernes, qui soient attendus par le public.
Paul-Antoine Grandjean, il y a des nouveautés, j'allais dire, pour cette 32e édition, des choses que vous avez particulièrement envie de mettre en avant parce qu'on repart sur une édition entre guillemets normale.
C'est vrai que nous, à la direction, déjà pour rebondir au niveau des finances, il faut savoir qu'en 2025, ça avait été un choix fort de la présidente et de l'exécutif. On est la seule direction, on a eu plus de 18% d'augmentation de budget pour justement revenir à des choses d'avant émeute. Hein, donc c'était un choix très fort et c'est pour ça qu'on a fait une édition aussi aujourd'hui beaucoup plus complète avec beaucoup de soutien aux associations, mais aussi avec des partenaires. Et c'est vrai que, comme l'a dit Yves et comme l'a dit la présidente, Madame Moreau, c'est qu'on est vraiment sur une dynamique d'allier différents plaisirs. C'est-à-dire de faire venir des gens pour une visite, de raconter notre histoire, parce qu'on a une histoire commune qui est importante et c'est vrai que c'est notre identité calédonienne que l'on a aujourd'hui, que l'on veut transmettre, mais tout ça aussi parce qu'on sait que les Calédoniens sont attachés par exemple à la nature, donc c'est pour ça qu'on a fait des sentiers pédestres, on a fait des sentiers VTT, on s'est approprié de nouveaux espaces pour faire découvrir justement nos vestiges. On peut parler, on va terminer le mois du patrimoine avec sur l'île des Pins, avec les vestiges de Wero, les vestiges de Cuto, les vestiges de Wero. Depuis juin 2026, on a signé une convention, un bail amphithéotique avec la famille Pankan-Peterson pour justement les restaurer. Et là, il y a un gros problème de restauration qui est prévu sur plusieurs années par la province sud. Et on a continué en fait des sentiers pour faire une boucle sur le Pic Enga, le Pic Meunier et venir justement arriver sur les vestiges de Wero pour les faire découvrir à la population, parce que la population est toujours émerveillée. Et c'est quand j'entends des fois les gens qui peuvent dire aller dans un musée, ça peut être ringard, mais en fait c'est faux. Venez et vous découvrez des choses tout à fait fantastiques. Moi, quand je vais au musée du site historique de l'île Nous qui est tenu par la TUP, ben en fait c'est des bénévoles très dynamiques. C'est un musée qui vit, et c'est ce qu'on souhaite aujourd'hui mettre en avant. Et c'est vrai qu'on pourrait en parler, mais là ce week-end sur Nouville, je vais laisser Yves parler du programme. Mmh. Mais c'est un programme qui est novateur, qui est créatif, qui va apporter de nouvelles personnes qui vont y venir, et c'est pour ça que ça marche.
Mmh. On avait dit qu'on n'utilisait pas de sigle. La TUP, c'est l'association, oui, témoignage d'un passé.
Exactement.
J'ai fait la conversion en direct, ce qui était un gros effort pour moi. Laure Moreau, quel public est-ce que vous visez finalement pour ce mois du patrimoine? Plutôt les adultes, plutôt les enfants? Paul-Antoine disait tout à l'heure que c'était familial, c'est un peu des deux.
C'est vrai que c'est très familial, car les enfants ne peuvent avoir cette ouverture d'esprit à la culture et à cet héritage de notre patrimoine que par le biais de leurs parents. Donc, mmh, il est important que les parents accompagnent leurs enfants dans cette démarche. Un patrimoine, c'est pas seulement ce que nous avons été, c'est aussi ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous voulons être demain. Et cette transmission, elle se fait à travers la famille, bien entendu.
Mmh. Justement, et je vais poser la question à tous les trois, vous répondrez les uns et les autres. Le patrimoine, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est simplement les vieilles pierres, ou est-ce que c'est autre chose? Comment vous le définiriez, Laure, peut-être?
Alors pour moi, le patrimoine, c'est vraiment la fondation même de qui je suis, mmh, en tant que Calédonienne. Mon pays a une histoire, cette histoire elle est commune, elle fait partie de mon identité. Je dois aussi m'appuyer sur ce patrimoine, ce passé, ce présent et ce futur vers lequel je veux aller pour créer du lien social, pour être dans la transmission justement et dans l'unité. Pour moi, le patrimoine, c'est un lieu de rencontre où tout le monde doit se retrouver, parce que cette histoire justement est commune. C'est aussi apprendre à se connaître, à se respecter, pour permettre justement à vivre ensemble. Et mon engagement est sincèrement axé sur justement la mise en valeur de ce patrimoine, de cette identité calédonienne culturelle qui va au-delà du bâtiment, du vestige, mmh, qui va regrouper les langues, qui va regrouper les savoir-être, les savoir-faire de notre diversité. C'est là notre richesse, notre, mmh, capacité à s'appuyer sur justement cette richesse, à la partager et à la transmettre. Elle est là notre force aujourd'hui, mmh, pour demain.
Mermoud, vous, votre définition
pour illustrer, parce que, oui, ça a bien été résumé là, mais pour illustrer, effectivement, c'est exactement ce qu'on fait au niveau des associations, au niveau des établissements patrimoniaux, c'est-à-dire qu'on va partir effectivement des bâtiments, du bâti et tout ce qui est patrimoine immatériel, avec les récits, les témoignages, les documents qu'on peut trouver à droite et à gauche. Et ensuite, il faut que tout ce fond, cette matière, en fait, les gens puissent s'en imprégner, l'assumer et développer leur identité à partir de tout ça. Donc effectivement, c'est vraiment quelque chose de très 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 complet. Et ça, c'est vraiment une priorité qu'on a au niveau des scolaires, notamment parce que c'est eux qu'il faut sensibiliser en premier lieu. Nous, sur nos villes, on a une chance aussi d'avoir 3000 jeunes étudiants calédoniens, mmh, au niveau de l'UNC.
Bien
donc
sûr.
Là aussi, il y a une transmission intergénérationnelle qui est fantastique. Là. Donc il faut profiter de cette chance-là. Et puis voilà, on travaille également, ça a été évoqué tout à l'heure, on a un passé, pardon, on peut penser que c'est le passé des Européens, le passé du bas, etc., alors que c'est vraiment quelque chose qui touche toutes les communautés en Calédonie. Donc là aussi, il faut rebondir, faire comprendre aussi bien aux Vietnamiens qu'aux Mélanésiens, etc., que finalement, on a tous un passé commun et on a tous des passerelles, des ponts à travers l'histoire du bagne, mmh, mais au travers d'autres histoires également. Donc, mmh, c'est ça un petit peu, le patrimoine, c'est très large.
En fait. Mmh. Paul-Antoine Grandjean, je vous pose la question, pour vous, le patrimoine, vous le définiriez comment?
Je pense qu'ils l'ont très bien dit, Yves et Laure, hein, c'est vraiment la base de notre culture, c'est ce qui va permettre aussi de cimenter notre avenir, et véritablement, c'est d'apprendre d'où l'on vient pour mieux se projeter. Donc je pense que aujourd'hui, où on parle d'identité calédonienne, où on essaye d'en créer une, je pense que c'est important de le rappeler. Et c'est pour ça que cet événement, il est important. Et c'est pour ça que c'est un peu dommage qu'il ne soit pas, sur toute la Nouvelle-Calédonie, c'est le seul aujourd'hui, c'est qu'il est qu'en province sud, il mériterait de revenir justement et qu'il soit projeté sur la province nord et la province des îles aussi, qui ont une belle histoire patrimoniale à véhiculer.
Mmh. On va s'intéresser un peu à... Alors, il y a plein de choses à découvrir, il y a plein de choses à faire jusqu'au 20 septembre, mais peut-être... Et j'ai le sentiment aussi qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, si je peux me permettre l'expression, Laure Moreau.
Tout à fait. Alors, l'événement est passé, mais je crois que la commune du Mont d'Or avait l'événement un peu différent, qui s'est différencié, je crois, de ce mois de patrimoine, avec la découverte de Casy, avec le village de Progny, et une nuitée, donc, avec la visite nocturne, lampe torche à l'appui, pour pouvoir découvrir le site. Mm-hmm. Mais pas que. En effet, le week-end dernier, à Païta, non, c'était le 22, je crois, le 22 août, à Païta, la découverte de Saint-Léon, avec sa restauration et toute son histoire à travers un jeu de pistes fabuleux pour les familles. Vraiment, les services se sont attelés à faire renaître l'événement en s'appuyant sur des idées nouvelles, des technologies nouvelles pour toucher justement ce jeune public qu'on cherche à atteindre et transmettre en héritage la mémoire de notre patrimoine. Et
justement, j'aimerais qu'on parle du jeune public aujourd'hui. Un gamin, pardonnez-moi, mais il a en permanence ce que j'ai dans la main, c'est-à-dire un téléphone portable. On voit rarement des enfants lire. Comment est-ce qu'on les intéresse à tout ça, Paul-Antoine, peut-être?
Il faut savoir qu'on est en train de... On n'a pas pu le mettre en place pour cette année, mais on peut le dire parce qu'on est en train de travailler dessus et on est en finalisation de l'outil.
C'est vous êtes venu avec des scoops dans cette émission, Paul-Antoine. Je vous remercie.
Non, c'est vrai qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, avec les téléphones, on est beaucoup sur une information qui peut être aussi véhiculée au niveau audio, vidéo. Et donc, en fait, on va afficher des QR codes sur les différents sites. C'est ce qui va être fait toute l'année 2027 sur les différents sites patrimoniaux, avec justement des vidéos qui vont être associées, pour justement des vidéos qui soient sous thématique, hein, animation ou autre, hein, pour accessible à tout le monde. Donc c'est ce qu'on est en train de...
C'est un travail énorme.
C'est un travail énorme, mais c'est nécessaire. Et comme l'a dit Yves, il faut qu'aujourd'hui on vive dans l'air du temps. Aussi, c'est pour ça qu'en ce moment on est en train de mener aussi une étude, il y a une étude qui est en train d'être menée sur le bâtiment des aliénés au CHS, avec une scénographie qui va être mise en place pour l'année prochaine, très numérique, donc sur ce qu'il était ce bâtiment et ce qui se passait.
Voilà. Yves Mermoud, qu'est-ce que vous allez vous proposer? On parlait du week-end qui arrive là, faites-nous languir un petit peu et dites-nous ce que vous allez proposer au public.
Bah écoutez, pour le samedi, donc on invite tout le monde, parce que comme on l'a dit autour de la table, c'est vraiment destiné à tout public, notamment à un public familial, et avec des niveaux qui sont relativement faciles, donc il n'y a pas de souci. Les enfants peuvent y participer à partir de 8 ans. Donc c'est toute la journée du samedi 5, et ça se passe sur Nouville, et on offre deux randonnées culturelles. Donc la première, c'est le matin, c'est de 8h30 à 11h30, c'est une rando à vélo, la cyclo-rando, qui va permettre de découvrir non seulement le cœur historique de l'île Nou, que l'on a l'habitude de faire visiter, mais aussi les autres sites qui sont moins connus, où il y a toujours des vestiges. Et là, on remercie encore la Province Sud qui a fait un gros travail avec ses équipes pour dégager, justement, permettre aux visiteurs de découvrir ces vestiges. Et puis, il y a des sites où il n'y a plus rien. Parce que ça a été rasé, parce que ça a disparu, et donc
même s'il n'y a plus rien, ça fait encore partie du patrimoine.
Ça fait encore partie du patrimoine, et donc on a toujours les photos d'époque, on a toujours les plans, on a toujours un tas de documents donc à présenter aux gens. Donc on aura des portfolios à trois, et on sera à vélo avec les micro-casques et on fera le commentaire donc de plusieurs zones, donc toute la zone, on va dire du camp est, donc avec ce qui était le fameux les baraquements du camp est, mais aussi le parc à charbon qui était très important à côté. Le four à chaud, les carrières de pierre, donc toute cette zone autour de Nouville-Plaisance. Puis ensuite, on va migrer en vélo par petits groupes, par cyclobus, jusqu'au parking du Sénat Coutumier, où on va évoquer une autre zone que les gens ne connaissent pas, qui s'appelle la vacherie. C'était une ferme laitière. Donc tout le lait qui était produit par ces vaches était destiné à l'hôpital du Marais, donc le CHS Albert Bousquet aujourd'hui. Et donc voilà une autre zone qu'on va traiter. Et puis toute la ferme nord, donc les gens connaissent où étant le coin du beach, avec les grandes plantations de luzerne et de maïs, parce qu'il fallait du bétail, il fallait le nourrir, etc. Et puis la léproserie qui se trouvait à la pointe. Voilà, donc tout ça, c'est un circuit en vélo. Nouville, c'est pas vraiment très très pentu, donc n'importe qui peut le faire. On ira tout doucement. Je voudrais remercier aussi, j'en profite, les clubs de vélo de cyclotourisme, donc droit au vélo, VTT passion, rando cycle, qui vont nous accompagner et qui vont servir d'encadrant à tous les groupes qui vont rouler. Donc voilà, ça c'est le programme du matin. Donc c'est ouvert à tout le monde et j'invite les gens à venir à partir de 8h sur le terre-plein de la digue de Nouville. Donc après l'héliport et après le musée maritime, il y a toute une zone de parking. Ça sera gardienné, il y aura un vigile, donc les gens, les véhicules seront en sécurité. Mmh. Et on pourra partir tranquillement pour se balader et découvrir ces sites-là. Et l'après-midi, pour ceux qui souhaitent faire les deux, il n'y a pas de souci. Sinon, ça peut être un public différent. C'est une deuxième randonnée culturelle, mais pédestre cette fois-ci, où on va partir du cœur historique, du site historique de l'Île-Nou, la place de la transportation, et on va marcher à travers tout le cœur historique pour se retrouver sur le haut avec le fameux quartier cellulaire, les bâtiments, les casernes des surveillants mariés et célibataires. Et puis ensuite, on va se retrouver sur le parking du Théâtre de Lille, d'où on va attaquer la randonnée, la montée vers le sommet du mont Huo. Alors c'est une colline qui fait 127 mètres, c'est pas énorme en altitude, mais il y a 800 mètres de montée, dont 500 mètres qui sont vraiment corrects, faciles. Les 300 derniers mètres sont un petit peu plus pentus, donc il faut quand même avoir un petit peu de santé et pas trop fatigué. Et de là-haut, on aura une vue panoramique à 360 degrés sur tous les sites de la transportation sur nos villes, mais aussi sur Nouméa. Et puis surtout, on va pouvoir traiter quelque chose qu'on fait jamais, c'est la déportation. Donc ça, c'est sur Ducos, parce qu'on verra tout ce qui est Nimbo, la baie de Mbi, Ndu. Donc tous ces sites ont été regroupés, les déportés dans un premier temps, et puis ensuite, quand les déportés seront amnistiés en 1880, ce sont les libérés du bagne qui vont occuper ces espaces-là, et puis plus tard les reléguer. Donc c'est l'occasion d'évoquer un petit peu tous les systèmes pénaux qui existaient à cette époque-là. Donc c'est très varié, et c'est vraiment pour tout public.
On met en avant le patrimoine pendant ce mois de septembre. Ça m'interroge sur la conservation. Comment est-ce que on fait pour conserver tout ça ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place ? Parce que finalement, si on n'a pas une envie de conserver ces lieux, ils disparaîtront peut-être un jour ou l'autre. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place ? Paul-Antoine, et je vous poserai la question alors également derrière.
Oui, bien sûr. Il y a énormément de choses qui sont mises en place. Il y a un problème de restauration qui est un plan pluriannuel d'investissement qui est fait par la province sud sur ces différents lieux. Par exemple, on a parlé des vestiges de Wero tout à l'heure qui vont être mis en place à partir de l'année prochaine sur 5 ans avec une étude qui a été lancée au mois d'août. Et on a d'autres sites. On a la maison du commandant Savio qui a commencé déjà depuis 2 ans, qui a été aidée par la fondation Berne. Donc c'est plus de 180 millions qui sont investis sur la commandant Savio à la fois. Il y a des investissements sur le SHIN, donc le site historique de l'Île-Nou, mais aussi sur Fort-Terrain-Bas, sur le Cambrin, sur les villages de Prony. Donc tous nos sites provinciaux sont en phase de restauration. Après, c'est un travail qui est colossal. C'est des entreprises qui sont spécialisées. Il faut savoir que ce n'est pas n'importe quelle entreprise qui peuvent intervenir, parce que c'est des matériaux où on souhaite que la restauration elle se fasse dans la règle de l'art, c'est-à-dire au niveau de la chaux, au niveau des pierres, etc., de la taille des pierres, donc dans des bâtiments. Donc, c'est quelque chose qui coûte aussi très cher au niveau de la restauration, mais c'est un programme qui est mis en place par la province sud déjà depuis de longues années et qui continue grâce au soutien d'un exécutif qui souhaite justement être dans cette dynamique-là.
Laure Moreau, sur cette problématique de la conservation.
Comme l'a dit Paul-Antoine, en effet, c'est une politique de la province sud de maintenir ces sites en état et de pouvoir accueillir du public, parce que quand on accueille du public, on a aussi des normes à respecter, mais aussi un vrai soutien, je pense, au tissu associatif qui font vivre ces espaces à travers justement le partage de ce patrimoine avec des visites guidées, avec une implication vraiment qui est à saluer, parce que ce sont des associations et des bénévoles qui dédient beaucoup de leur temps et de leur énergie, et on le sait très bien, sans eux, on ne pourrait aboutir à nos objectifs provinciaux.
Et il y a une très grosse implication des bénévoles pour ce mois du patrimoine. Je lisais qu'il y a une centaine de bénévoles qui vont être impliqués. C'est important pour vous, Province Sud, qui êtes à l'initiative et qui pilotez un peu tout ça, qu'il y ait cette mobilisation de ces bénévoles autour de ce mois du patrimoine.
Bien entendu, ça veut dire clairement justement que le patrimoine fédère, et c'est la vocation qu'a la province sud en soutenant justement ce mois du patrimoine, c'est de fédérer les populations et et les générations, toutes générations confondues se sentent concernées justement parce qu'on a des jeunes et des moins jeunes bien entendu qui sont bénévoles dans les associations, mais oui, c'est complètement la vocation aussi de la province sud de faire que les bénévoles soient de plus en plus nombreux pour nous aider à maintenir ces projets, car on le sait très bien, le nerf de la guerre, c'est le même pour tout le monde, et sans ces bénévoles et sans le soutien de l'État et de la province sud, donc dans ses financements, on n'arriverait pas à maintenir cet événement.
Yves Bermoud.
Oui, ouais, je rebondis sur ce que disait Laure. Effectivement, les bénévoles, c'est important. Nous, au niveau de l'association, on doit être une trentaine de bénévoles impliqués pour différentes actions, mais il n'y a pas que les bénévoles membres de l'association, je veux dire, on fait appel aussi aux associations de riverains sur nos villes, par exemple, c'est l'occasion d'impliquer des populations qui vivent depuis 20 ans, 30 ans ou plus sur nos villes, sans connaître les bâtiments historiques. Et donc, de plus en plus, là, c'est l'occasion pour tout ce qu'on a préparé pour samedi. Ils ont été impliqués, donc l'association Les Alizés, les associations les riverains du cœur historique, etc. Et donc, ce sont généralement des populations mélanésiennes et qui ont travaillé pendant plusieurs jours là pour que les sites soient nettoyés, soient propres, soient prêts à recevoir le public. Donc voilà, les bénévoles, c'est une chose, mais aussi réussir à impliquer les populations locales, c'est quelque chose qui nous tient à cœur.
Il y a une question qui m'est venue en vous écoutant, Yves, tout à l'heure, quand vous nous parliez de cette balade à vélo et la balade à pied. Il y a encore des choses à découvrir ?
Ah oui, il y a toujours des choses à découvrir. Il y a des zones qui sont, je pense aux zones de cimetières. Par exemple, c'est pas très fun ce que je vous dis, mais sur nos villes, il y avait des cimetières de surveillants. Alors le cimetière de surveillants, il a été complètement rasé parce que en 1980, parce qu'on a construit Jules Garnier à la place, donc les ossements ont été récupérés. On a en fosse commune au quatrième kilomètre. Mais par contre, derrière, on parlait du Mont Huot tout à l'heure. On évoquera la zone où il y a 1300 condamnés. Les tout premiers condamnés qui sont arrivés dans les années 1870 à peu près, les premiers ont été enterrés dans une zone qui est un petit peu difficile d'accès. Et puis ensuite on a créé un autre cimetière qui est près de l'hôpital le CHS Bousquet aujourd'hui, où il y a plus de 7000 corps. Donc c'est des zones qu'on ne connaît pas, il y a plus grand chose à voir, mais c'est des zones il y a quand même 8000 personnes qui sont décédées sur l'île durant la période du bagne, ça veut dire un condamné sur trois.
Paul-Antoine Grandjean, on va arriver au terme de cette émission. Le mois du patrimoine en province sud, c'est donc jusqu'au 20 septembre. Qu'est-ce qu'on va avoir à faire ? Alors, plein de choses, mais s'il y a deux, trois événements comme ça qui vont marquer un peu cette fin de mois du patrimoine, ce serait lesquels ?
Alors, il y a le musée de la mine, les pétroglyphes, la découverte des pétroglyphes à Thiot, qui est super intéressant. Il y a aussi la découverte du patrimoine bâti de la ville de Dumbéa, avec la maison Nimba, la Romerie, la chapelle Saint-Pierre Chanel, par exemple. Et l'incontournable, si je peux dire, donc ça va être ce week-end, c'est l'un des incontournables avec l'île Nou, mais il y aura vraiment la découverte du banc canyonnaire de l'île des Pins. C'est vraiment incroyable ce week-end qui va être proposé, avec des rencontres, des sentiers, avec une population qui est enthousiaste à accueillir justement les gens pour leur faire découvrir tout ça. Donc rendez-vous le 19 et 20 septembre vraiment pour la fin à l'île des Pins.
Laure Moreau, une question peut-être un peu plus personnelle. Qu'est-ce que vous, parmi tous les événements qu'il y a pour ce mois du patrimoine, lesquels vous font le plus vibrer, j'allais dire ? Qu'est-ce que vous avez envie de découvrir ?
Alors, pour ma part, je participerai samedi à la randonnée.
Vous allez faire la balade
La randonnée, oui.
Vous faites les deux, hein, vélo
non,
et...
Non, je fais que le matin. Je fais que l'après-midi. Le matin, je serai au salon des éditeurs. Donc, c'est aussi un événement qui est important.
Ça fait aussi partie du patrimoine, mais c'est un autre...
Complètement. Et donc, oui, j'ai hâte de découvrir l'île Nou sous une autre... variante, je dirais, puisque j'avais eu le plaisir d'assister à la rénovation de la boulangerie. Et c'est vrai que c'est un site historique qui nous cache et qui a encore beaucoup à dévoiler, je pense.
Yves Mermoud, vous avez la tête dans le guidon avec le bagne, etc., etc. Il y a des choses...
Pas que.
Mais vous avez des choses que, en tant que Yves Mermoud, au-delà de votre titre de président d'association Témoignage d'un passé, vous avez envie de découvrir peut-être sur tout autre chose et d'autres domaines.
Je serais ravi de pouvoir retourner le dépin pour retrouver le site de Wero, parce que il était complètement étouffé. Voilà, là on va le retrouver et puis ça va dynamiser. Enfin, ça va entraîner une dynamique de rénovation certainement du site. Donc ça c'est fantastique parce qu'on avait peur de perdre un petit peu ces bâtiments là. Donc ça c'est une bonne chose. Et puis je voudrais simplement faire un petit coup de pub aussi pour une animation qu'on va faire le 12 septembre. Donc c'est le samedi prochain. Ça sera la Maison Cellière. C'est quelque chose qui tient à cœur aussi aux Calédoniens, parce qu'on va évoquer les kermesses. Et en Calédonie, l'histoire des kermesses avec les petits chevaux, avec la pêche à la ligne, avec les jeux de massacre, etc. Enfin, ça rappelle beaucoup de souvenirs. Et donc, voilà, on va revivre un petit peu l'ambiance des kermesses à la Maison Cellière durant la journée du 12 septembre, avec les petits chevaux, avec un tas d'animations.
Et je vois que ça vous parle, Laure Moreau, les kermesses.
J'ai eu le plaisir aussi de la découvrir en nocturne il y a quelques années de ça, et c'est vrai que c'est des souvenirs d'enfance, en effet, qui font partie de cette identité, justement, dont on parlait.
Un dernier mot avec vous, Paul-Antoine Grandjean. Où est-ce qu'on trouve les infos pour participer à ce mois du patrimoine?
Alors, toutes les infos sont sur le site de la Province Sud.
On en revient au numérique. Voilà,
hein. Au numérique. Mois du patrimoine, avec tous les événements, on a ouvert une nouvelle page qui est très simple et très synthétique pour chacun.
Merci à tous les trois d'être venus dans cette émission citoyen que nous avons consacrée à cette 32e édition du Mois du patrimoine en Province Sud, qui se poursuit donc jusqu'au 20 septembre. Merci à vous d'avoir été avec nous ce midi. C'est la fin de ce magazine qui sera disponible d'ici quelques minutes en réécoute sur notre site internet, le www.rrb.nc. Votre prochain rendez-vous avec l'info, ce sera à 13h avec Nicolas Legrand. Bel après-midi.
Le magazine citoyen avec la Province Sud, une province citoyenne.
La Province Sud, agir pour l'avenir.